RFI, minuit 30 à Paris, 22h30 en temps universel.
Afrique Soir.
L'actualité africaine, c'est avec Sylvie Berruet. Bonsoir.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Joseph Kabila dénonce une dictature en RDC. Il dit vouloir se rendre à Goma dans l'est du pays. L'ancien président congolais, accusé de complicité avec le groupe armé AFC M23, s'est exprimé sur YouTube ce soir au lendemain de la levée de son immunité. L'île Maurice a célébré l'accord historique signé hier avec Londres sur la rétrocession de l'archipel des Chagos qui prévoit le maintien d'une base militaire sur l'île de Diego Garcia. Nous reviendrons dans ce journal sur la séance de désinformation orchestrée par Donald Trump face à Cyril Ramaphosa à la Maison-Blanche à propos du prétendu génocide dont seraient victimes les fermiers blancs d'Afrique du Sud. C'est demain le clap de fin du 78e Festival de Cannes. 4000 journalistes de 90 pays accrédités, parmi eux le Burkinabé, David Hervé Onla, qui nous racontera son parcours. Et puis nous reviendrons sur la disparition d'un monstre sacré de la photographie, le franco-brésilien Sebastião Salgado, qui a pris ses tout premiers clichés en Afrique. Il a même failli tout arrêter après avoir couvert le génocide au Rwanda. Son allocution était très attendue au lendemain de la levée de son immunité par le Sénat. Une levée qui ouvre la voie à des poursuites judiciaires à son encontre. Joseph Kabila, accusé par la justice militaire de complicité avec le groupe armé AFC M23 qui sévit dans l'est du pays, s'est exprimé ce soir sur YouTube. Une allocution de près d'une heure. Qu'a dit l'ancien président congolais Florence Maurice.
En avril, l'annonce de son retour en RDC par la partie orientale du pays avait déclenché la suspension de son mouvement politique, le PPRD. Désormais, Joseph Kabila est également sous la menace de poursuites judiciaires, mais il a encore redit ce vendredi soir son intention de se rendre à Goma dans les prochains jours. Au sujet des accusations de trahison portées contre lui, l'ancien président dénonce une falsification de l'histoire et des décisions arbitraires qui témoignent, selon lui, d'un recul spectaculaire de la démocratie. Il n'a pas prononcé le nom de Félix Tshisekedi, mais s'est livré à une critique acerbe de sa gouvernance depuis 6 ans. La dictature doit prendre fin, a notamment lancé l'ancien président. Joseph Kabila dénonce une série de violations intentionnelles de la Constitution et juge illégitime les institutions actuelles et leurs animateurs. Sur le plan sécuritaire, il reproche à son successeur de s'être détourné des accords internationaux, garant selon lui de la stabilité régionale. Se posant en sauveur, il propose ce qu'il appelle un pacte citoyen en 12 points pour, je cite, tirer la RDC du gouffre.
Et nous restons en République démocratique du Congo avec ce drame qui a frappé la ville de Bunia, le chef-lieu de l'Ituri dans l'est du pays. Jeudi, en début d'après-midi, un immeuble de 4 étages en construction s'est effondré, ensevelissant plusieurs dizaines de personnes. Depuis, les secours s'activent, au moins 2 morts enfouis dans les décombres. 16 personnes avaient été secourues dès hier, selon le maire de la ville. C'est un reportage de Coralie Piré.
Daniel était parmi les premiers sur place avec d'autres jeunes du quartier Bakoko. Ils ont déblayé à la main les gravats à la recherche de survivants.
Nous avons entendu du bruit, les gens s'exclamaient. Nous avons récupéré quelques survivants. Nous avons pu les amener à l'hôpital.
Ils ont depuis laissé la place aux pelleteuses de la MONUSCO, la mission de l'ONU en RDC, et à celles mobilisées par les autorités de la ville. Mais plus les heures passent, plus les espoirs s'amenuisent, explique le chef de quartier Guy Sindi Liabo, encore il y a peu, en contact avec les personnes coincées.
On a communiqué avec eux par téléphone, oui, par message aussi.
Et aujourd'hui, ils ne parlent plus.
Aujourd'hui, ils ne parlent plus. C'est là que nous sommes en train de désespérer. Nous essayons de tout faire pour seulement évacuer leur corps.
La cause exacte de l'effondrement n'est pas encore connue, mais la zone n'est pas constructible, rappelle le maire, le colonel Bosco Mbouy.
Ils n'avaient pas d'autorisation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire parce que nous sommes dans le marécageux. Et en plus de ça, son ingénieur n'a pas bien fait son calcul. Maintenant, voilà la conséquence.
Des ouvriers, des écoliers étaient sur le chantier ce jeudi au moment du drame. Une 60aine de personnes, estiment les autorités. Plus d'une 10aine ont déjà été secourues, mais difficile de savoir combien reste encore dans les décombres. Coralie Pierret, Bounia RFI.
En bref, Amnesty International réclame la libération sans condition des personnels de santé détenus pour avoir participé à un vaste mouvement de grève. 47 d'entre eux, accusés d'avoir mis en danger la vie des patients, ont été interpellés. Une vingtaine sont retenus au siège de la police à Addis Abeba. Le secteur de la santé est en grève depuis le 12 mai. Les professionnels réclament des hausses de salaire. Vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir, 2h35 à Flic en Flac et à Trou d'eau douce. Au lendemain de l'annonce officielle de la rétrocession des Chagos à Maurice par le Royaume-Uni, le gouvernement mauricien a marqué l'événement pour célébrer cette page historique. Une cérémonie solennelle s'est tenue ce vendredi à l'hôtel du gouvernement à Port-Louis. Chagossiens, membres du gouvernement et une foule se sont rassemblés pour assister à ce moment symbolique à Port-Louis, Abdullah Erali.
À Port-Louis, l'hôtel du gouvernement était aux couleurs nationales. Une petite foule tenait à ne pas manquer l'événement. Parmi ceux qui attendaient ce jour depuis des décennies, Olivier Bancoult, leader du groupe Réfugiés Chagos.
C'est un jour vraiment très historique. Le fait qu'après tant d'années, on a bataillé pour nos droits fondamentaux et relogé chez notre terre natale, là où on a pris naissance.
Le traité de rétrocession des Chagos à Maurice prévoit le retour des Chagossiens sur leur terre, à l'exception de Diego Garcia, qui reste sous bail américain. Suzelle Baptiste, née à Diego Garcia en 1965, attend ce moment avec impatience.
Moi, je suis née à Diego Garcia. Je suis née le 25 janvier 1965. Et je suis née un frère jumeau. Et ma maman est une Chéchéloise, mon papa est mauricien, on est né là-bas. Mais malheureusement, on n'a pas pu vivre comme d'autres familles dans les propres pays là où ils sont nés.
Les États-Unis conservent leur base pour 99 ans. En contrepartie, Maurice recevra du Royaume-Uni près de 200 millions d'euros par an pendant 28 ans. Mais le traité n'est pas encore en vigueur. Il doit encore être ratifié par le Parlement britannique. Abdullah Erali. Pour lui, RFI.
L'Afrique du Sud, toujours très choquée par les accusations de Donald Trump, selon lesquelles les fermiers blancs africaneurs sont victimes d'un génocide. Le 21 mai, lorsqu'il a reçu à la Maison Blanche le président sud-africain Ramaphosa, Donald Trump pouvait-il ignorer que la photo qu'il a brandie n'avait rien à voir avec des prétendus massacres de fermiers blancs d'Afrique du Sud? L'agence Reuters a clairement identifié ce document. Elle a même détaillé dans quelles circonstances la photo avait été prise. En effet, c'est l'un des vidéastes de l'agence qui a tourné ces images début février 2025 en RDC. Constat, son témoignage est très éloigné du récit livré par le président américain Olivier Four.
La scène est visible sur la page officielle de la Maison Blanche. À 28 minutes 30, le président Trump brandit un papier, l'impression d'un article d'un site internet presque inconnu, sur laquelle on distingue la photo d'une équipe en combinaison blanche qui manipule des corps emballés dans des sacs mortuaires. Commentaire du président américain, des morts, encore des morts, des agriculteurs blancs qui sont enterrés. Cette image s'inscrit dans une séquence plus large dans laquelle le président américain accuse Pretoria de laisser se perpétrer des massacres de fermiers blancs en Afrique du Sud. Entre les mains du président, on distingue le nom du journal, The American Thinker, une publication en ligne qui propage des idéaux ultra-conservateurs et qui s'est servi de cette photo pour illustrer un article sur les violences interethniques en Afrique australe. Après vérification, il s'agit en réalité d'une capture d'écran tirée d'une vidéo publiée par l'agence Reuters le 3 février dernier. Sur X, son auteur, Jafar Al-Khatanti, explique « Cette photo est issue d'un reportage que j'ai tourné pour l'agence Reuters autour d'une fosse commune à Goma, en République démocratique du Congo. Cette image n'a donc rien à voir avec la situation interne en Afrique du Sud. La Maison Blanche, pour sa part, n'a fait aucun commentaire. »
Voilà Olivier Four, merci. Alors pour en savoir plus sur cette infox au cœur même de la Maison Blanche, je vous invite à vous connecter sur le site info-verif RFI. On en vient à la suite du bras de fer entre Niamey et les sociétés chinoises du secteur pétrolier du Niger. Le ministre nigérien du pétrole leur a adressé plusieurs courriers. Sahabi Oumarou demande le départ d'ici la fin du mois des expatriés en poste depuis plus de 4 ans. Les relations étaient déjà tendues en mars, même si la Chine reste le principal partenaire de Niamey, où le pétrole est la première ressource d'exportation. Magali Lagrange.
Le ministre du Pétrole dénonce dans un courrier le mépris de la réglementation nigérienne. La compagnie pétrolière chinoise CNPC doit donc résilier les contrats de travail des expatriés employés depuis plus de 4 ans dans le secteur pétrolier au Niger. Tous doivent avoir quitté le pays à la fin du mois. Mais selon des cadres de la SORAZ, la société chinoise qui gère la raffinerie de Zinder, plusieurs dizaines d'employés seraient concernés. Sahabi Oumarou accepte donc d'étudier les situations au cas par cas pour ne pas nuire au bon fonctionnement de l'entreprise. Les relations avec Niamey se sont déjà tendu. Il y a 2 mois, les directeurs de la CNPC, de la SORAZ et de WAPCO avaient été expulsés. Selon un expert du secteur, il existe un problème de confiance avec les sociétés chinoises, le Niger n'ayant pas les capacités de contrôler leurs activités. Niamey réclame par ailleurs des arriérés d'impôts à la CNPC, qui lui a pour sa part accordé une avance de 400 millions de dollars l'an dernier. Enfin, les autorités nigériennes qui mettent en avant leur souveraineté ont déjà réclamé la révision des contrats et le recrutement de plus de Nigériens dans ces sociétés.
On reste dans l'ouest du continent, au Mali. Depuis 10 jours, les partis politiques sont interdits, dissous par décret présidentiel. Leurs activités sont interdites. Des intellectuels maliens s'en sont émus. Ils ont publié une tribune dans laquelle ils ont fait part de leur inquiétude. Et puis, jeudi, hier, donc, des experts indépendants sur les droits humains, mandatés par l'ONU, ont fait part également de leurs préoccupations. Selon eux, cette mesure ouvre la porte aux arrestations arbitraires. Écoutez Eduardo González à la tête de ce groupe d'experts.
C'est une menace pas seulement pour les acteurs politiques, mais pour tous citoyens maliens, parce que la population a un droit d'avoir des opinions sur la marche du pays, d'avoir des idées, des critiques et de faire des contributions à cette marche du pays. Donc, la interdiction des activités des partis politiques, finalement, c'est l'interdiction de toute pratique politique. En fait, c'est une porte ouverte pour les abus contre les citoyens qui se prononcent sur la marche du pays. Les abus ont déjà commencé avant ce décret. Il y a des détentions arbitraires, des opposants, certains qui appartiennent à des partis politiques, mais aussi certains qui sont simplement des citoyens préoccupés par la situation du pays. On a déjà dans le Mali un certain modèle de répression, des arrestations arbitraires, des abus judicialisés et aussi des personnes qui ont été arrêtées et on n'a pas information sur leur situation, sont disparues. Donc, ce modèle existe déjà, mais le décret va formaliser ce modèle, va renforcer ce modèle.
Propos recueillis par David Bachet, 22h42 en temps universel sur Afrique Soir.
RFI à Conakry. 89.9 FM.
La question est sur toutes les lèvres. En Guinée, le retour à l'ordre constitutionnel aura-t-il bien lieu cette année? C'est ce qu'avait dit le Premier ministre Bahoury la semaine dernière en Côte d'Ivoire en annonçant la tenue de la présidentielle et des législatives pour la fin d'année. Mais surprise hier, le secrétaire général et porte-parole de la présidence, le général Camara, a tenu une conférence de presse pendant laquelle il s'est montré beaucoup plus réservé sur cette question, Sidi Yansani.
Alors que le général Amara Camara expliquer aux journalistes les raisons du récent décret présidentiel sur le retrait de dizaines de titres miniers, il en a profité pour parler politique et nuancer les propos que le Premier ministre Bahoury a tenus à Abidjan devant un panel d'investisseurs au premier jour de l'Africa CEO Forum, hors des canaux officiels et habituels de la junte du CNRD.
J'ai entendu récemment une prise de parole du Premier ministre chef du gouvernement qui a dit que cette année on va coupler telle élection et telle élection. En tant que porte-parole de la présidence, je ne suis pas en mesure de vous donner une date des élections, mais nous voulons faire de cette année, conforme à la déclaration du chef de l'État, une année électorale. Et la première des choses, c'est d'avoir une constitution. Vous voyez aujourd'hui l'engouement et tout ce que ça suscite d'aller vers des élections. Nous aussi, on le ressent puisqu'on vit parmi vous. Nous voulons effectivement aller vers une normalisation, mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Quand on aura une constitution, après on avancera.
Et cette nouvelle constitution fera l'objet d'un référendum le 21 septembre prochain, a rappelé et garanti le porte-parole de la présidence. La question de la présidentielle et du retour à l'ordre constitutionnel en général est d'autant plus sensible que la campagne de recensement de la population, à partir duquel sera tiré le futur fichier électoral, accuse des retards importants, notamment à cause du manque de kits d'enrôlement biométrique et d'agents recenseurs, d'après les sources jointes par RFI.
En bref, en Ouganda, un tribunal a refusé d'examiner la libération sous caution de Kizza Besigye, ce qui prolonge la détention de l'un des principaux leaders de l'opposition, qui est poursuivi pour trahison, un crime passible de la peine de mort. Et puis la militante ougandaise Agather Atou Haïr, détenu au secret depuis plusieurs jours en Tanzanie, a été retrouvé ce vendredi à la frontière entre l'Ouganda et la Tanzanie. Elle présente des traces de torture selon des défenseurs des droits de l'homme. Elle avait été arrêtée lundi en même temps que le militant kényan Boniface Mwangi à Dar es Salaam, libéré lui hier. L'opposition et plusieurs ONG s'alarment de la répression de l'opposition en Ouganda et en Tanzanie à l'approche des élections présidentielles prévues respectivement en 2026 et en 2027. Le Cameroun, où son nom a été synonyme de violence, en particulier à la fin des années 2010, début 2020, aux États-Unis, Eric Thano Tato s'est rendu aux autorités américaines après avoir été mis en accusation par un jury fédéral de Baltimore. Ce ressortissant camerounais âgé de 38 ans installé dans le Maryland est accusé de complot en vue de soutenir des groupes séparatistes armés anglophones et d'avoir proféré des menaces visant à blesser ou à enlever des civils camerounais. Explication à Mélitulé.
Eric Tato se fait connaître sur les réseaux quand la crise prend une tournure violente et que des groupes armés prennent les armes pour revendiquer l'indépendance du Cameroun anglophone qu'ils appellent Ambazonie. Colbert Quain, journaliste à Bamenda, se souvient.
Il est entré en scène en 2017. Il était l'un des leaders en exil, incitant et encourageant la jeunesse à agir. Il coordonnait des attaques, même depuis l'étranger.
Eric Tato relaie aussi les appels aux journées villes mortes et au boycott des écoles gouvernementales, se fait connaître sous le pseudo Gary Master, nom de code choisi pour désigner des mutilations, et collecte des fonds pour financer des attaques. Mais depuis, sur le terrain, la donne a changé, l'influence des leaders en exil n'est plus la même, les groupes armés se financent par l'extorsion et les kidnappings contre rançon. Arrêt, Elvis Tui, analyste senior pour International Crisis Group.
Cela semble être une étape importante, mais je crains qu'elle n'arrive un peu trop tard. Depuis 2 ans, on n'entend plus beaucoup parler d'Eric Tato concernant les combats sur le terrain. Mais même si cela est tardif et que les groupes armés se sont en quelque sorte restructurés différemment, il est toujours très important que les gens soient conscients qu'il faudra, quoi qu'il arrive, rendre des comptes maintenant ou à l'avenir.
Aux États-Unis, s'il est reconnu coupable, Eric Tato encourt 15 ans de prison pour le soutien matériel aux groupes armés, plus 5 ans de prison pour chaque communication menaçante pour laquelle il sera jugé.
Amélie Tulich.
RFI à Pointe-au-Sel, 103.2 FM.
On va faire un petit jeu de devinettes. Hein. Pointe-au-Sel, c'est aux Seychelles, avec ce drôle de chassé-croisé de bateaux au large de l'île de Mahé, des vedettes portuaires qui accostent le navire laboratoire Plastique Odyssée. C'est un bateau qui est dédié au recyclage du plastique. Il doit débarquer des chercheurs de l'océan Indien et embarquer une nouvelle équipe composée de Mauriciens, de Seychellois, de Malgaches et de Français. En 2 ans et demi de navigation, c'est la première fois que ce bateau accueille une mission scientifique. Et quelle chance à Sarah Tétot qui a pu embarquer à bord.
C'est à la corne de brume que le navire salue les nouveaux arrivants et remercie ceux qui le quittent. Après 1 mois de navigation dans les eaux de l'océan Indien occidental, l'équipe à bord effectue sa relève. Franck Legras, le commandant sortant du navire, fait la passation avec son successeur, Johan Long.
Les conseils, c'est de valider auprès des autorités portuaires pour pouvoir mettre le Zodiac à l'eau et pour aller faire les prélèvements. L'île Sainte-Anne, c'est une île privée, tu n'as pas accès à l'île, inland. Par contre, tu as accès à la plage, ce sera le message à passer aux scientifiques qui rentrent sur la plage.
Originellement, le navire Plastique Odyssée héberge une micro-usine de recyclage de plastique. Pour cette toute première mission scientifique, un laboratoire a été spécialement installé à bord pour permettre de mener les différentes études.
Bonjour à tous, et bien, bienvenue à bord.
Bonjour.
On est donc parti pour une petite semaine de campagne océanographique aux Seychelles.
Thierry Bouvier, le chef de la mission scientifique, rappelle les objectifs de chacun.
On va pouvoir déployer toutes nos opérations, donc des opérations de dégradabilité des plastiques, on va récupérer des macroplastiques et des microplastiques dans les lagons et à l'extérieur du lagon, et puis on va aussi récolter du plancton pour regarder un petit peu ce que ce plancton consomme en termes de microplastiques. Installez-vous, prenez vos cabines et on se retrouve dans 10 minutes sur le pont.
Des études inédites qui devraient permettre de décrire les trajectoire de dérive des déchets plastiques dans l'océan Indien, d'estimer leur quantité, ainsi que les risques associés sur la santé humaine. Sarah Tétot, La Digue, RFI.
Le sport, et qui a bien pu remporter la 8e étape du Tour cycliste du Togo? Je suis sûr que vous vous posez la question. Eh bien, la réponse, c'est l'Ivoirien Emmanuel André Kouadio, qui est arrivé à Anéo en tête de cette 8e étape. L'Ivoirien qui a devancé le Burkinabé Ouahabou Bouda et le Ghanéen Franck Awuku. Alors, pas de changement au classement général. Le Malien Diarra Sidiki reste maillot jaune. Et le dénouement de cette édition 2025, ce sera demain samedi avec la dernière étape disputée dans Lomé. Bien sûr, nous y reviendrons. Et le festival de Cannes touche à sa fin. Demain, le jury présidé par Juliette Binoche et qui compte parmi ses membres le documentariste congolais Dieudo Amadi décernera ses prix, notamment la prestigieuse Palme d'Or. Cannes, c'est un événement culturel mondial. 4000 journalistes venus de 90 pays, parmi lesquels David Hervé Onla, fondateur du site culturel Oxygène Mag qui se trouve au Burkina Faso. Il répond et raconte son parcours à Sophie Torlotin.
J'ai créé mon journal en ligne, Oxygène Mag, et c'est comme ça que je me suis retrouvé au Festival de Cannes, en postulant, comme tout le monde, et puis ils ont estimé que, bon, comme c'est le Burkina Faso, c'est quand même un pays qu'on a besoin d'envoyer un peu le cinéma mondial du côté du Burkina Faso, encore qu'il y a le FESPACO. Donc ils ont saisi l'occasion pour que moi je puisse venir faire des reportages sur le Festival de Cannes. Et puis Ouagadougou, le Burkina Faso, maintenant, je suis le seul depuis 4-5 ans qui vient ici. Hein. De la sous-région, nous sommes deux, j'ai rencontré un confrère ivoirien qui est là. De la sous-région journaliste, Afrique de l'Ouest, nous sommes deux. Ce qui fait un peu la patriotique, moi je viens, c'est pas seulement le cinéma africain qui m'intéresse. Moi je suis venu faire des reportages sur le cinéma mondial. Je pense que ça intéresse même le fait que je parle des autres producteurs étrangers. Nos réalisateurs, grâce au FESPACO, on les connaît. Donc pour eux, me rencontrer le Robert De Niro, Denzel Washington, c'est incroyable. Il y a beaucoup même, c'est l'attraction majeure, c'est ce qui les intéresse. Faire un reportage sur un film que j'ai vu de Chris Pagli, par exemple, c'était, ils ont aimé.
Des propos recueillis par Sophie Torlotin. Et puis on a appris la mort de Mohamed Lakhdar Amina, lauréat en 1975 de la Palme d'Or, le réalisateur et producteur algérien, seul cinéaste arabe et africain couronné à Cannes, qui meurt donc aujourd'hui, alors qu'un hommage lui a été rendu, et son film chronique des années de braise dans le cadre du programme Cannes Classique avait été rediffusé à cette occasion. On reste toujours sur la croisette ou au marché du film. La 6e édition du Pavillon Afrique a mis le cap sur l'avenir de la production cinématographique en Afrique face au développement technologique et à la place de plus en plus importante occupée par l'intelligence artificielle. Plusieurs journées de débats ont été organisées avec de jeunes créateurs africains. Reportage d'Ouda Ibrahim.
Une idée importante est perpétuellement revenue dans le débat, faire profiter les créateurs du continent de l'expérience de la diaspora, créer des ponts et transmettre les connaissances acquises et le savoir-faire, surtout dans le domaine des nouvelles technologies. Les organisateurs visent à unir les énergies pour trouver des solutions à une industrie en manque d'infrastructures. Pour la participante au débat, Lamia Belkaad Giga, universitaire tunisienne et enseignante de cinéma, il faut également plus d'échanges entre les pays africains.
Aujourd'hui, il y a énormément de challenges, énormément de choses à mettre en place par rapport aux films d'animation et les effets spéciaux, tout ce qui est, de créer soit des collectifs, et surtout qu'il n'y a pas la formation dans la plupart des pays, il y a un déséquilibre entre les pays africains, donc ce serait bien de créer un écosystème africain, c'est-à-dire le nord de l'Afrique, le sud de l'Afrique, le centre de l'Afrique, les pays anglophones, francophone. Je pense qu'il y a pas mal aujourd'hui de films qui se font entre les pays. Il se trouve que c'est une bonne chose.
Évoquant le présent et l'avenir du cinéma africain face à l'intelligence artificielle, Karine Barclay, la fondatrice du Pavillon Afrique, met en garde: le continent ne doit pas arriver après la bataille.
Nous sommes tous au même niveau en ce qui concerne l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et l'Afrique a vraiment toutes ses chances d'être au niveau mondial, ce qui se fait de mieux. Il n'y a pas de raison pour qu'on ne soit pas parmi les premiers. Il y a déjà des gens qui font vraiment du très bon travail dans l'animation, dans le cinéma de manière générale, qui sont d'origine africaine.
Selon Karine Barclay, les différentes compétences forment un écosystème, mais pour bâtir une industrie durable, il faut croiser les compétences et avoir surtout le soutien politique.
Il faut juste qu'il y ait la partie un peu légale. Le gouvernement devrait faire leur travail dans ce sens-là pour protéger les droits des auteurs. On ne peut pas embrasser je dirais, l'intelligence artificielle dans des pays sans mettre en place des conditions de protection de la propriété intellectuelle, une éducation sur ce qu'est l'intelligence artificielle.
Comprendre, maîtriser, adapter, des mots qui sont souvent revenus dans les débats face aux nouveaux défis qui transforment le métier et même l'imaginaire des créateurs. Houda Ibrahim, Cannes, RFI.
RFI vous proposera demain soir une émission spéciale consacrée à la fin du Festival de Cannes et à la remise des prix de cette 78e édition. Et on revient à présent sur la mort à 81 ans d'une légende de la photographie, le franco-brésilien Sebastião Salgado, artiste et témoin engagé, un noir et blanc réaliste, cru parfois. Derrière son objectif, il a su capter les tragédies humaines, les exodes, les guerres, la famine. Il a fait ses débuts en Afrique, la sécheresse en Éthiopie, la faim au Niger ou encore le génocide au Rwanda qui l'a traumatisé à tel point qu'il a failli abandonner la photo et ranger son appareil dans un tiroir. Certains lui ont reproché de tirer profit d'une esthétique de la douleur et de la misère, des critiques qu'il rejetait au micro d'Edmond Sataka en 2023.
Ça fait partie de mon langage de photographe. C'est un langage esthétique. On a un plan à travailler, on a des lignes. Dans cette fraction de seconde, il faut organiser tout ça. On écrit avec la lumière et ça donne une image. Il faut qu'elle soit équilibrée, le plus parfait possible pour que les gens l'apprécient. Et en appréciant l'image, les messages que l'image est passée, elle a dedans. Et les gens vont le comprendre. Si c'est une image mal construite, peut-être qu'on va nier cette image, on ne va pas s'intéresser à elle.
Et les hommages affluent du monde entier pour rendre hommage à l'œuvre de Sebastião Salgado. Hommage également de l'ancien président brésilien Lula. Le Brésil, c'est encore sur RFI avec de la musique à présent. L'album Nos de Virginia Rodrigues, le Brésil du Candombé et des Orixás.
Cidade reluzente, Egipô, cidade florescente, Egipô, cidade reluzente. Egipô, cidade florescente, Egipô. Sua majestade real, Araqueto, ritual do candomblé, exalta as cidades de Queta e Sabé. Ferido, vingou-se o homem, utilizando seus poderes. Passaram-se anos difíceis, sofreram muitos seres. Os vassalos ficaram sem pastos, a fauna e a flora não brotavam mais. As mulheres ficaram estéreis, a flor do seu sexo não se abrirá jamais. Ele, vara era o ritual. Durante várias horas travou-se batalha entre o bem e o mal. Depois retornaram com o rei para a floresta sagrada, onde comeram a massa de ame bem passada, onde será comida por todos os céus. Negros homens em comunhão com Deus. Ele, Elegibó, Elegibó, Elegibó.
Virginia Rodrigues avec ce titre Uma Historia de Ifá, notre hommage en quelque sorte au photographe Sébastio Salgado qui nous a quittés à 81 ans. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette dernière édition d'Afrique-Soir. Merci à toute l'équipe, à la réalisation ce soir, Raphaël Lazizi. C'était sa playlist personnelle d'ailleurs, ce titre, et je l'en remercie.
Émission spéciale, clôture du Festival de Cannes 2025. Sophie Torlotin, Isabelle Chenu.
Quel film remportera la Palme d'Or ? Viendra-t-il d'Iran, du Brésil, d'Espagne ou de Norvège ? 22 films à juger et à départager. Retrouvez-nous samedi à 18h, temps universel, pour commenter en direct et à chaud le palmarès du 78e Festival de Cannes.
RFI.